Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux enjeux liés à l'eau. Depuis quelques années, le 22 mars est décrété Journée mondiale de l'eau. Il faut dire que la question s'est affirmée au fil du temps comme un enjeu international majeur. D'ici 2025, 4 milliards d'individus vivront dans des territoires soumis au stress hydrique, particulièrement dans les pays du Sud. Changement climatique, accroissement démographique, impératifs de sécurité alimentaire et objectifs de développement forment un cocktail potentiellement explosif. Faut-il traiter l'eau comme une question de sécurité? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG spécialisée dans l'accès à l'eau pour des populations en situation particulièrement précaire, populations déplacées pour cause de conflits ou victimes de catastrophes naturelles. Bonjour.
Bonjour.
Franck Galland, directeur général d'ES2, cabinet d'ingénierie conseil spécialisé en résilience urbaine et dans la préparation des opérateurs eau et énergie en réponse aux crises majeures. Bonjour.
Bonjour.
Et Alexandre Tête, chargé de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, et enseignant à l'Université Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Pour commencer, j'aimerais que l'on aborde cet accord intervenu il y a un an, un accord presque historique, intervenu en mars 2015 entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, sur le projet d'abord contesté par le Caire de construction de l'énorme barrage baptisé Renaissance par l'Éthiopie, un projet qui a failli conduire les deux pays à l'affrontement. Est-ce que l'on peut parler, Franck Galland, de modèle de coopération interétatique sur un fleuve, une coopération qui n'était pas acquise d'avance?
Ça serait du moins quelque chose à espérer. Cet accord était effectivement très très loin d'être acquis. Rappelons-nous que quand Feu, le premier ministre éthiopien Meles Zenawi, pose la première pierre de ce barrage, le 2 avril 2011, il le fait à un moment bien particulier, puisque quelques mois plus tôt, Hosni Moubarak, le raïs de l'Égypte, a été destitué. On a un gouvernement de transition qui est dirigé par le maréchal Tantawi. Et effectivement, l'Éthiopie, je dirais, en profite, vu du Caire, pour lancer ce projet titanesque, pharaonique, du barrage Renaissance. Ce barrage, quand il rentrera en opération en 2017-2018, il fera 63 milliards de mètres cubes en termes de réserves. Ça sera le 13e du monde. Et surtout, il donnera à l'Éthiopie une puissance électrique de 6000 mégawatts. D'un coup d'un seul, l'Éthiopie va multiplier par deux sa production et sa distribution électrique grâce à cet ouvrage. À l'évidence, si on se projette 10 ans auparavant, ce barrage, dès qu'il en a été question, dès que Addis Abeba a émis l'idée de le faire, il y a eu immédiatement des réactions, mais très violentes, à la fois médiatiques, diplomatiques, d'Égypte, mais également du Soudan, sur la possibilité que ce projet soit mené à bien. Je me souviens notamment au lendemain des accords d'Entebbe, parce qu'en 2010, au-delà de la construction de ce barrage, l'Éthiopie avait lancé une initiative diplomatique avec les pays amont du Nil Blanc, notamment la Tanzanie, vous retrouviez le Rwanda, pour revoir les accords de 1959, accord qui stipulait que 55,5 milliards de mètres cubes des eaux du Nil allaient à l'Égypte, 18,5 milliards de mètres cubes aller au Soudan, mais rien pour l'Éthiopie. Alors que, rappelons-le, le Nil Bleu prend sa source en territoire éthiopien avant de rejoindre le Nil Blanc sur les rives de Khartoum et de créer ce grand Nil. Donc, on revient de loin. Cet accord a surpris tout le monde. Il montre que le nouveau président égyptien, Sisi, applique une réelle politique particulièrement audacieuse. Cet accord permet effectivement à l'ensemble de la région d'être sur la bonne voie. Le seul petit bémol que je mets aujourd'hui, c'est que cet accord n'a pas encore été vraiment formalisé. J'en veux pour preuve que les appels d'offres destinés aux études qui vont permettre de regarder les conséquences que ce barrage va avoir sur l'environnement, sur les flux poissonneux, etc., n'ont pas encore été attribués. Et que, dans la presse effectivement égyptienne, on commence à voir de ci, de là, depuis un an, ressortir des articles assez hostiles. Mais en tout cas, c'est une vraie preuve d'hydrodiplomatie et un vrai succès à mettre au compteur de la diplomatie égyptienne, et j'allais dire aussi à la diplomatie chinoise, puisque la Chine est de plus en plus la grande puissance tutélaire de cette région. L'Éthiopie est très importante pour la Chine. L'Égypte devient importante pour la Chine, alors qu'elle l'était pour les États-Unis. Hein. Rappelons que sous Moubarak, il y avait effectivement une perfusion financière américaine sur l'Égypte.
Alexandre Tête, un commentaire sur ce que vient d'évoquer Franck Galland sur ce modèle d'accord, peut-être.
Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte a toujours été hégémonique sur son bassin. Il y a ce fleuve qu'elle utilise depuis des millénaires et sur lequel elle considère qu'elle a des droits privilégiés, historiquement ancrés. Elle a toujours joué le jeu de la coopération, sans doute pour aussi ralentir par l'intérieur l'expansion ou le développement hydroélectrique de l'Éthiopie. Et c'est vrai que toutes les initiatives prises depuis les années 90 ont surtout permis à l'Égypte de temporiser, d'exprimer son opposition plus ou moins formelle à toute modification du cours du Haut Nil. Et en fait, aujourd'hui, l'Éthiopie a trouvé les moyens, notamment par sa diaspora, de financer ce grand barrage. Et donc, en fait, depuis que l'Éthiopie a pu s'émanciper des financements internationaux sur lesquels l'Égypte pouvait peser sur leur attribution, eh bien, la donne a changé. Et la période d'instabilité politique qu'a connue l'Égypte ouvrait également une incertitude de sécurité. Comment allait réagir l'Égypte face à cette construction unilatérale de l'Éthiopie? C'est pour ça que ce préaccord, effectivement, c'est juste une acceptation de se mettre à la table pour négocier sur les partages des bénéfices hydroélectriques. Était une très bonne nouvelle, surtout qu'il impliquait le président égyptien, soudanais, le premier ministre éthiopien. Et comme l'a rappelé Franck, en revanche, il y a eu depuis 10 ou 11 réunions tripartites, et là, à nouveau, les divisions sont très fortes. La presse égyptienne en fait état beaucoup en janvier et février. Donc, il faudra voir si l'Égypte souhaite vraiment coopérer de manière plus profonde et partager les bénéfices de ce barrage, ou si au contraire elle joue à nouveau le jeu du statu quo.
Donc ce serait intéressant, bien sûr, de garder le microscope, d'une certaine manière, sur cet accord donc intervenu en mars 2015. Pour ce qui est des bassins transfrontaliers et des aquifères qui se situent à la frontière de plusieurs pays, je vous garde sur un autre sujet africain, toujours, Alexandre Tête. C'est l'exemple du Turkana qui vient illustrer finalement que d'une manière ou d'une autre, les clignotants peuvent s'éteindre quelque part et puis s'allumer éventuellement ailleurs. Le Turkana, c'est un comté du nord-ouest du Kenya où d'importantes réserves d'eau souterraines ont été découvertes en 2013, ce qui évidemment est en soi une bonne nouvelle. Mais des tensions sont à craindre car la valorisation des eaux souterraines par des forages pourrait provoquer l'épuisement de puits traditionnels et créer une compétition pour l'eau avec de possibles affrontements entre communautés. On se trouve là aux confins de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et du Kenya. Finalement, rapidement, quel défi pour le Turkana, Alexandre Tête?
Eh bien, il y a des défis internes et des défis également externes. C'est vrai que le Kenya est une myriade de communautés ethniques, et d'ailleurs les comtés ont été organisés pour correspondre à la carte de présence de ces communautés. Il y a une révolution qui est en train de se faire au Turkana. Il y a découvert du pétrole en 2012, vous le rappeliez, des aquifères en 2013. C'est un peuple essentiellement de pastoralisme. Hein. Et donc effectivement, comment leur mode de vie, qui n'est d'ailleurs pas valorisé dans le PIB kényan, qui ne prend pas en compte l'élevage, comment va être valorisé ces eaux souterraines, comment ces populations qui n'ont pas l'habitude d'être fixées vont être partie prenante du développement de ces eaux souterraines, également du pétrole, comment le partage de ces 30 eaux pétrole va être fait. Ça, c'est des enjeux de développement, je pense, assez essentiels. Il y a un autre enjeu qui est effectivement l'alimentation en eau du lac Turkana, auquel dépendent donc les peuplades Turkana, mais également Marsabit, qui est le comté de l'autre côté qui riverain du lac Turkana, parce que l'Éthiopie a lancé un vaste projet de valorisation à la fois hydroélectrique et agricole du fleuve Omo, qui est le principal affluent du lac Turkana. Pour l'instant, il n'y a pas de tension interétatique, parce que le Kenya est en très forte demande d'énergie et voit surtout un intérêt à récupérer, à racheter une partie de l'hydroélectricité produite en Éthiopie, que ce soit par le grand barrage de la Renaissance dont on a parlé tout à l'heure, ou de ces différentes constructions sur l'Omo. Et au final, cet intérêt bien compris entre le Kenya et l'Éthiopie masque complètement les difficultés à la fois donc sociales, économiques, environnementales majeures pour le lac Turkana qui vont découler de ces projets.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Franck Galland, pour rester sur la région d'une certaine manière, on va remonter un petit peu pour aborder la problématique de la rive sud-est de la Méditerranée, où la quantité moyenne d'eau par habitant est inférieure à 1000 mètres cubes par an, alors que la moyenne mondiale atteint 7000 mètres cubes par an, le tout dans un contexte d'accroissement démographique important. Une image d'ailleurs pour illustrer les conséquences du réchauffement climatique dans la région, c'est la disparition de l'équivalent de la mer morte entre 2003 et 2009. Qu'est-ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui des répercussions des printemps arabes sur la question de l'eau dans la région, Franck Galland?
Les printemps arabes ont eu lieu sur une zone qui était déjà soumise, comme vous l'avez rappelé Marie-France, à extrême stress hydrique. Alors rappelons que ces pays du sud et de l'est de la Méditerranée regroupent 60% de la population mondiale la plus pauvre en eau. À la faveur de ce grand vent d'espoir, malheureusement, qui s'est traduit dans certains pays par des affrontements civils, civilo-militaires, puis carrément des conflits de haute intensité, eh bien, les premières victimes, bien sûr, sont les populations, mais aussi les infrastructures essentielles, infrastructures électriques, infrastructures en eau. Et force est de constater que, à l'heure où nous nous parlons, en 2016, eh bien, un certain nombre de pays ont particulièrement à souffrir des conséquences du printemps arabe. Commençons déjà par le Yémen. Alors, c'était un pays éminemment problématique, sans doute voué à disparaître à cause d'un manque d'eau. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de 2012 du State Department, plus précisément de la Communauté nationale du renseignement américain, qui prédisait qu'effectivement, avec moins de 200 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources, le Yémen serait sans doute le premier pays au monde à disparaître à cause d'un manque d'eau. Bon, suite au bombardement, à cette guerre entre sunnites et houthis, donc cette minorité chiite, les infrastructures sont les premières victimes. On bombarde effectivement des stations électriques, les conduites sont touchées, et donc les premières personnes à subir les conséquences de ces bombardements sont à l'évidence les populations et surtout les hôpitaux. Ensuite, si on se projette plus à l'ouest, regardons la situation de la Libye. Au bord du chaos, voire qui a effectivement passé ce stade et qui est en situation chaotique, la grande rivière artificielle, vous savez, c'est un énorme projet qu'a voulu Kadhafi, et en fait, qui a commencé dans les années 70, mais qui ne s'est terminé qu'en 2009, c'est-à-dire peu de temps avant sa destitution, cette grande rivière artificielle qui, sur 3500 km, amène de l'eau fossile de la nappe septentrionale du Sahara vers les grandes côtes libyennes, est aujourd'hui l'objet de chantage, de sabotage, je dirais de menaces de différentes tribus. Donc voilà typiquement, concrètement, comment un pays arrive, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'eau, arrive à se retrouver dans une situation très problématique. Et puis si on continue, je dirais la pire des situations est aujourd'hui celle de la Syrie. Les infrastructures en eau de l'ex-dynastie Omeyyade sont détruites. Et pire que ça, on a une stratégie absolument calamiteuse de Daesh qui vise à prendre systématiquement les barrages comme point d'appui et comme zone de domination. Alors ça a commencé dès février 2013, d'abord proche de Raqqa, puisque Raqqa est leur fief, avec le barrage de Baas. Ensuite, ça a été le barrage de Tabqa, qui est éminemment important, puisqu'il alimente en eau et en électricité la ville d'Alep. Et à l'heure où nous nous parlons, ces deux barrages sont toujours occupés par les forces de l'État islamique. Et puis ensuite, ils ont continué cette logique de conquête sur des barrages essentiels à l'alimentation en eau et en électricité de l'Irak. Rappelons-nous la bataille autour du barrage de Mossoul qui a conduit à l'intervention armée des États-Unis et de la coalition avec des bombardements très ciblés, puisque les forces de l'État islamique visaient début août 2014 à prendre le contrôle de ce barrage éminemment dangereux puisque il a été, je dirais, construit sur un sol pas tout à fait stable, et ce grand barrage quand même alimente alimente 50% de l'Irak en électricité et peut potentiellement provoquer un tsunami urbain si il était soit d'un point de vue accidentel, soit d'un point de vue attentionnel mis à mal. C'est quand même 1,7 million d'habitants qui vivent en aval à Mossoul. Donc vous voyez cette stratégie à la fois de ciblage systématique des infrastructures, qui est un pur scandale, et au-delà de ça, de conquête d'ouvrages éminemment stratégiques et potentiellement de véritables armes de destruction massive.
Alors, je reviendrai vers vous, Franck Galland, parce que je sais que parmi les solutions, vous estimez qu'il faut faire évoluer le droit. Mais la question qui se pose à l'écoute de ce que vous venez de dire, elle est celle-ci, c'est finalement, est-ce qu'il faut traiter l'eau comme une question de sécurité ? Et qu'est-ce que cela implique ? Qui veut répondre, Alexandre Tête, Franck Galland ?
Je veux bien continuer sur cette lancée. Je pense que très clairement, aujourd'hui, avec l'accélération de cette histoire, depuis une vingtaine d'années, l'eau devient un sujet de sécurité, de sécurité collective. Et il se doit d'être traité au meilleur niveau, et je pense notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, le gouvernement helvétique a lancé en novembre dernier, lors de la semaine internationale de la paix de Genève, une initiative de 2 ans, qu'elle appelle le haut panel eau et paix, destinée à remettre au gouvernement helvétique un certain nombre de propositions, typiquement sur la protection des infrastructures en eau durant les conflits, typiquement, et je laisserai la parole à Alain Boinet qui est un spécialiste du sujet, c'est la reconstruction après conflit. Donc il faut absolument que, je dirais, les forces militaires intègre bien aujourd'hui la nécessité de pouvoir envoyer sur des théâtres d'opération, une fois que les armes cessent, des spécialistes techniciens et ingénieurs en eau, en assainissement, de façon à pouvoir rétablir le plus rapidement possible des installations vitales aux populations. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait la guerre en zone urbaine. On ne la fait pas du tout en espace rural. Donc oui, le sujet de l'eau devient un sujet de sécurité collective.
Alain Boinet.
Alors l'eau, c'est un sujet de sécurité collective, mais de sécurité humaine, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'eau insalubre est une cause majeure de mortalité dans les pays où les populations n'ont pas accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement, et tout particulièrement dans les pays pauvres, affectés ou par une guerre ou par une catastrophe naturelle. Donc pour nous, ça a toujours été une cause, la cause de l'eau, de sécurité. On dit que l'eau, c'est la vie, mais l'eau, malheureusement insalubre, c'est aussi une mortalité qui tue 2,6 millions de personnes chaque année, dont une majorité d'enfants et d'adolescents. Donc évidemment, c'est pour nous une très très grande urgence humanitaire.
Alexandre, peut-être un complément ?
Juste un mot, effectivement, pour dire, Franck Galland a illustré les enjeux sécuritaires liés à l'eau, et Alain Boinet souligne sa dimension de développement, et je pense profondément que l'eau est d'abord un enjeu de développement qui a des dimensions sécuritaires de plus en plus fortes. Donc je crois qu'on ne peut pas isoler ces cercles qui s'interpénètrent, les questions sécuritaires impacte les enjeux sanitaires d'accès à l'eau. Donc il faut traiter ensemble, en tout cas en avoir conscience et les traiter ensemble.
Alors traiter ensemble, juste 2 minutes pour terminer cette première partie d'émission. Ce qu'on a constaté tout de même, Franck Galland évoquait le mois de novembre avec la création de cette commission paix et sécurité à Genève. Novembre, c'était juste au moment ou à quelques semaines de la conférence sur le climat qui s'est tenue à Paris. Une conférence dans laquelle l'eau avait curieusement une place pas si importante que cela. Un commentaire rapide, Alain Boinet.
Commentaire rapide, oui. Les acteurs de l'eau, réunis au sein du partenariat français pour l'eau d'ailleurs, ont été très très présents à la COP21. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous savons que 90% des catastrophes sont liées à l'eau. Nous savons que, par exemple, l'Agence française de développement 2014 a consacré 80% de ses ressources en matière de... vous savez, il y a l'atténuation, donc qui joue sur les gaz à effet de serre. Puis il y a aussi les mesures d'adaptation, c'est-à-dire que le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique entraîne un certain nombre de conséquences. Nous, on le voit, Solidarité internationale dans la Corne de l'Afrique, par exemple au nord du Kenya, mais on le voit au Darfour, on le voit au Tchad. Donc aujourd'hui, le dérèglement climatique, il affecte des populations nombreuses qui en sont vraiment victimes. Et donc, la faiblesse d'ailleurs de la COP21, c'est de ne pas s'être suffisamment mobilisé sur les mesures d'adaptation. Et les mesures d'adaptation devraient mobiliser 80%, je dirais, des financements nécessaires. Ils sont estimés entre 25 et 35 milliards par an. Parce qu'en fait, il faut à la fois se battre contre les effets, réduire les gaz à effet de serre, mais aussi prendre les mesures nécessaires d'adaptation des populations confrontées au dérèglement climatique. Ça représente donc entre 25 et 35 milliards par an de mesures d'adaptation. 80% de cette somme devrait être consacrée à ce qui touche l'eau, que ce soit l'eau sous toutes ses formes. Et malheureusement, le fonds vert qui devrait mobiliser 100 milliards de dollars par an ne sera effectif qu'à partir de 2020. Donc on va encore attendre, alors qu'il s'agit d'urgence.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Alain Boinet, Franck Galland et Alexandre Tête dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les enjeux liés à l'eau. Nous retrouvons nos invités, Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, ONG spécialisée dans l'accès à l'eau pour des populations en situation particulièrement précaire, populations déplacées pour cause de conflits ou victimes de catastrophes naturelles. Franck Galland, directeur général de S2, cabinet d'ingénierie conseil spécialisé en résilience urbaine et dans la préparation des opérateurs eau et énergie en réponse aux crises majeures. Et Alexandre Tête, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à l'Université Panthéon-Sorbonne. Alain Boinet, le 22 mars est donc décrété Journée mondiale de l'eau. Dans ce cadre, vous avez publié un sondage visant à mesurer l'importance de l'enjeu lié à l'eau pour les Français, mais aussi leur niveau de connaissance. Pas mal de surprises.
Ce que je voudrais dire, c'est que si nous avons publié ce baromètre, c'est la seconde édition. C'est parce qu'en fait, nous avons fait à Solidarité Internationale trois constats il y a une dizaine d'années. Le premier, c'est que l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement dans les situations de conflit ou de catastrophe est absolument vital. C'est un besoin vital des populations, quotidiennement. Ça peut pas attendre, donc c'est vraiment urgent. Deuxième point, on a constaté que l'eau insalubre, vue par les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, était une cause majeure de mortalité. Troisième point, on a constaté que pratiquement personne n'en parlait. Et je dois d'ailleurs dire que ce qui m'étonne, qui ne cesse de m'étonner, c'est que pratiquement personne ne parle jamais de la mortalité due à l'eau insalubre. Sauf quand il y a une crise de choléra, comme on l'a vu en Haïti après le tremblement de terre. Mais c'est extrêmement rare. Alors que l'eau insalubre tue plus que les guerres, chaque année, que le sida, que le cancer, qui sont bien sûr des grandes calamités. Mais c'est passé sous silence pour des raisons qui m'échappent. En tout cas, nous, on a décidé d'en faire un combat. Et dans le baromètre, cette année, effectivement, on publie, comme vous le soulignez, un sondage qui a été réalisé par l'Institut donc Odoxa. Et la surprise, elle est que, d'une part, 95% des personnes interrogées disent que l'accès à l'eau potable est un enjeu important pour tous les Français, que ça soit bien sûr ici en France, mais que ça soit dans le monde. Mmh. Et ça, c'est une évolution absolument étonnante, enfin, puisqu'il y a moins de 10 ans, pour les Français, la première priorité mondiale, c'était la lutte contre la faim, qui reste bien sûr une très très grande priorité. Mais on voit que depuis une dizaine d'années a émergé dans la conscience, en France, mais à mon avis qui est mondiale, la conscience que l'eau est vitale pour l'avenir de l'humanité. Ça c'est le premier point. Le deuxième enseignement qu'on peut en tirer, de manière complémentaire, c'est qu'en fait, 60% des Français environ considèrent qu'ils sont mal informés sur ces sujets. D'où l'intérêt d'une émission comme Géopolitique aujourd'hui, alors que nous sommes au moment, disons, de la Journée mondiale de l'eau. Donc une majorité de gens pensent que c'est tout simplement une grande priorité. 60% disent qu'ils sont mal informés. Et quand on leur pose des questions sur leur consommation d'eau potable, elle est très très sous-estimée par rapport à ce qu'ils consomment véritablement. Et quand on leur pose la question également du nombre de gens qui décèdent du fait de l'eau insalubre, alors là, les chiffres sont absolument confondants. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance qu'on peut comprendre. Alors c'est la raison d'être naturellement à la fois du baromètre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement publié par Solidarité Internationale et des campagnes que nous menons chaque année. Parce qu'en fait, une association d'aide humanitaire comme la nôtre, à la fois elle se bat sur le terrain dans 20 pays aujourd'hui avec 2000 personnes tous les jours, pour apporter une aide humanitaire à 5 millions de personnes chaque année, dont beaucoup en matière d'accès à l'eau potable, hygiène, assainissement. Et là, on parle des pays donc affectés par des guerres et des catastrophes naturelles. Et dans le même temps, on agit auprès des institutions, en France, au niveau européen, mais aussi au niveau des Nations Unies, pour que les décisions politiques et les financements nécessaires soient mobilisés, de façon à ce qu'on se batte contre cette mortalité, qui tue encore une fois 2 600 000 personnes chaque année, sachant que l'accès à l'eau potable est un vecteur formidable de développement pour l'éducation, pour l'école, pour le développement, de manière générale. C'est investir dans l'accès à l'eau potable, c'est investir dans le développement, et puis c'est aider les populations à sortir des crises dont elles sont victimes.
Alors on va reparler bien sûr de la mobilisation au niveau des Nations Unies. Alexandre Tête, est-ce qu'il y a une explication à cette prise de conscience lente de l'importance de l'eau?
Alors, tout d'abord, c'est devenu un enjeu international croissant. Je veux dire, depuis la fin des années 70, il y a eu un certain nombre de conférences des Nations Unies dédiées à ce thème. Il y a eu des décennies de l'eau potable, de l'assainissement, entre 80 et 90, entre 2005 et 2015. L'eau faisait partie des objectifs du ministère du développement qui ont été remplacés en 2015 avec comme horizon 2030 par des objectifs de développement durable. Donc, elle figure bien dans la tête, je pense, des gouvernants. L'enjeu, je crois, est d'en faire bien une priorité politique. C'est-à-dire que l'eau est tellement indispensable, comme l'évoquait Alain Boinet, que bien souvent, les gens se débrouillent dans des zones compliquées. Il faut trouver de l'eau. Alors, quand c'est compliqué, on trouve juste un petit bidon pour boire. Quand on a un peu plus, on va aussi se laver avec de l'eau de qualité améliorée. Et au final, les gouvernants n'ont pas forcément fait une urgence. Et on s'aperçoit que dans les pays où le droit à l'eau a été intégré à la Constitution, je pense à l'Afrique du Sud, au Mexique, les progrès ont été extraordinaire. Je pense à Alger, qui était une ville d'un pays qui a des ressources énergétiques et donc des revenus. Il y avait des quartiers entiers qui n'avaient pas d'eau pendant plusieurs jours, jusqu'à 5 jours, quoi. Et en quelques années, le problème a été réglé. Parce que, à un moment, on décide de le régler. On en fait une priorité. Et donc, les journées mondiales de l'eau, ces décennies, les rapports maintenant annuels publiés par le programme mondial d'évaluation des ressources en eau contribuent à maintenir dans l'actualité ponctuelle, au moins une fois par an, sans compter les forums mondiaux qui ont lieu tous les 3 ans. Bref, je crois que le sujet arrive et même dans les COP, c'est la première fois qu'il y avait une demi-journée consacrée essentiellement aux questions d'eau, parce que sinon, comme vous le rappeliez, comme l'a rappelé Alain, l'eau est partout finalement, dans la plupart des projets d'adaptation, il y a une dimension eau, que ce soit la prévention des inondations ou lutter contre les effets des sécheresses, l'eau se manifeste, entre guillemets, dans tous les programmes de lutte contre le changement climatique. Donc l'eau est bien présente, je pense, à l'esprit, simplement, il n'y a pas que l'eau.
Alors l'eau, priorité politique, je vous poserai la question, Franck Galland, tout à l'heure, pour ne serait-ce que le cas des pays du Golfe. Alain Boinet, je me tourne vers vous d'abord. Objectif de développement durable, quelle place pour l'eau?
Alors, ce que je voudrais souligner, comme le vient de le dire Alexandre Tête, c'est que nous venons de terminer les objectifs du millénaire pour le développement, donc 2000-2015. Et ce qu'il faut dire tout de même, c'est que cela a contribué vraiment à un développement assez extraordinaire dans tous les domaines.
Mais les objectifs ont été atteints?
Y compris dans le domaine. Alors, tous les objectifs n'ont pas été atteints. Souvent, ils sont atteints de manière diversifiée selon les continents. Pardon, dans le domaine de l'eau, l'Asie, grosso modo, a atteint ses objectifs, mais l'Afrique, pas du tout. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que 1,6 milliard d'êtres humains, durant ces 15 ans, ont accédé à des sources d'eau améliorées, ce qui est un progrès absolument considérable. Dans le même temps, la population mondiale s'est accrue de 1,2 milliard d'habitants. Et là, nous sommes maintenant avec les objectifs du développement durable qui ont été signés en septembre 2015 par 195 pays. Donc 195 pays se sont engagés sur des objectifs qui visent à éliminer la pauvreté dans le monde dans 15 ans. Et donc à permettre un accès universel à l'eau et à l'assainissement. C'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement positif en soi. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que c'est une décision qui a été prise à l'initiative des Nations Unies mais signée par 195 États, mais que la mise en œuvre est sous la responsabilité de chaque État. Donc ça veut dire que chaque État devrait avoir un plan national d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc faut-il encore que ce plan existe? Et là, il y a des faiblesses. Et les grosses faiblesses, c'est d'abord une question de gouvernance. C'est-à-dire que pour suivre ces objectifs, il faudrait qu'il y ait un organisme international qui soit en charge. Il n'existe pas. Il y a une trentaine d'agences du système des Nations Unies qui s'occupent d'eau, mais aucune n'est particulièrement chargée de suivre cette question des ODD, eau, assainissement à l'horizon 2030. C'est donc 15 ans. 15 ans, ça va aller très vite. Donc ça, c'est une grosse faiblesse. Et le deuxième point, c'est la question des financements. Parce qu'en fait, l'aide publique au développement, c'est environ 140 milliards de dollars par an. Le coût des ODD, les 17 ODD, parce qu'il n'y a pas que l'eau, hein. Tous les sujets sont là, l'éducation, l'alimentation, et bien d'autres encore. Le coût, il n'y a pas d'estimation précise, mais le coût est d'environ 3 000 milliards de dollars. Donc la question, c'est comment va-t-on mobiliser des financements pour atteindre ces objectifs? Et nous étions récemment avec Franck Galland dans un colloque à Tanger sur ces questions d'eau et d'énergie, et l'ancien Premier ministre du Niger nous disait « Mais mon pays, pour atteindre les ODD, aurait besoin d'un budget 17 fois supérieur à ce qu'il est actuellement. » Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir mobiliser au niveau international des ressources. L'aide publique au développement ne suffira pas, il faudra d'autres sources de financement, y compris des financements privés. Il faut que tout le monde se mobilise, bien sûr aussi les ONG avec des dons, hein, les associations humanitaires comme Solidarité Internationale avec des dons. Tous les mécanismes sont importants. Et d'ailleurs, une dimension majeure de réponse ou de succès des ODD, ça va être de travailler de manière multi-acteur. C'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs au niveau mondial se mobilisent pour atteindre ces objectifs. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, on attend effectivement les indicateurs de qualité de l'eau, les mécanismes de suivi. Et ce que nous pensons, d'après ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils seront très satisfaisants. Mais le problème, ça va être la gouvernance et les financements et la volonté politique de chacun des États qui vont devoir mettre en place des plans nationaux. Et c'est là que les acteurs de l'eau, auront un rôle majeur pour s'assurer que la communauté internationale qui a pris cette décision se donne les moyens de ce qu'elle a décidé.
Et contraindre chaque gouvernement finalement à passer à l'action par rapport aux engagements pris. C'est cela qu'il faut entendre aussi.
Oui, et puis apporter aux pays qui n'ont pas les ressources suffisantes la capacité d'atteindre ces objectifs. Honnêtement, c'est des objectifs d'une ambition absolument considérable. 195 pays ont pris une décision. Ils l'ont fait de manière responsable. Il s'agit maintenant d'être responsable et de le faire, tout simplement. Et nous, Solidarité Internationale, à travers le baromètre qu'on va publier chaque année, dans les 15 ans qui viennent, on va suivre ça de très très près, en particulier dans les pays où les gens ont le moins accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, dont beaucoup en meurent. Donc, c'est une urgence humanitaire. Et on va suivre ça de très près.
Alors, réaction, Alain Boinet évoquait la priorité politique, l'importance de la priorité politique. Alexandre Tête aussi. Franck Galland, une région de la planète que vous connaissez particulièrement bien, la péninsule arabique avec les pays du Golfe qui sont particulièrement vulnérables, ont-ils fait de la question de l'eau une priorité politique ?
Un article des Échos paru cette semaine était intitulé « L'accès à l'eau, l'autre guerre du Golfe ». J'ai trouvé ça particulièrement pertinent. Il est clair que dans ces États, dont les PIB par habitant sont parmi les plus riches de la planète, je pense notamment au Qatar, qui a un PIB par habitant supérieur à celui du Liechtenstein, l'eau est une priorité stratégique. 99% de l'eau produite au Qatar est une eau qui est issue du dessalement. Ce pays, ce grand pays, n'a que 2 jours de réserve en eau devant lui. Et toute la politique depuis quelques années vise à les doter de réserves stratégiques. C'est une question de survie. Question de survie par rapport à des accidents qui peuvent survenir sur les stations de dessalement, qui peuvent survenir en mer, sur des pollutions marines, hydrocarbures ou pollutions chimiques, mais aussi, et confère le contexte géopolitique et sécuritaire actuel dans le Golfe, à des situations de pollution intentionnelle, de sabotage, de cyber-activisme, de cyber-attaque sur des systèmes d'informatique industrielle qui sont éminemment vulnérables par rapport aux systèmes d'informatique de gestion. Et on voit très très bien qu'aujourd'hui, devant l'appauvrissement des nappes phréatiques, en 20 ans, ces pays du Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, dépendait encore, il y a quelques années, à 80% des nappes phréatiques pour son alimentation en eau. Ça descend, ça descend, ça descend, et c'est prévu pour descendre encore sur les prochaines années. Donc, tout l'impératif de ces pays, premièrement, est de se doter de capacités de dessalement supplémentaires. C'est exactement ce pourquoi l'Arabie Saoudite a inauguré en 2014 une énorme station qui va permettre sur la côte est de produire de l'eau dessalée et de l'amener sur plus de 400 km à Riyad, parce que Riyad a de plus en plus besoin d'eau. Aujourd'hui, 60% de son eau vient du dessalement, acheminée à grand renfort énergétique. Et au-delà de ça, ce sont des réservoirs stratégiques naturels. Alors, par exemple, vous avez ce projet assez formidable des Émirats Arabes Unis qui vise à faire du stockage et de la recharge artificielle de nappes à partir d'eau dessalée. C'est-à-dire qu'on va injecter 23 millions de mètres cubes environ, c'est ce projet de l'IWA, de façon à créer une poche de réserve au cas où une station de dessalement tombe, et le tout pour alimenter Abu Dhabi à hauteur de 200 000 mètres cubes jour. Même projet encore plus démesuré au Qatar. Là, on parle de 136 millions de mètres cubes stockés pour des raisons d'urgence. C'est du stockage, entre guillemets, la réalimentation naturelle. Mais par rapport à ça, vous avez du gigantisme de construction de réservoirs souterrains semi-enterrés. Alors, le Guinness Book, en novembre 2014, attribuait à la ville de Jeddah le plus gros réservoir fait par l'homme. On parle de 2 millions de mètres cubes prisonniers à travers des cuves de stockage. C'est 18 mètres de haut, c'est 120 mètres de diamètre, c'est énorme. Mais le Qatar va faire voler ça en éclats, va battre ce record mondial à partir de 2026, puisque le Qatar, à travers un projet qui est son projet de méga réservoir, envisage de rendre prisonniers 10 millions de mètres cubes à travers 24 ouvrages d'eau douce issue du dessalement. Donc vous voyez que pour ces pays, c'est sécuritaire, c'est stratégique, au cas où, de se doter de capacités de réserve, et ça peut être diplomatique, je vais terminer là-dessus, et on voit aussi les logiques de coopération, alors un pas en avant, deux pas en arrière parfois, en fonction des antagonismes, même si c'est le monde sunnite, entre Émirats, Arabes Unis et Qatar, on a des phases de tension, entre Oman et Qatar, on a des phases de tension, etc., etc. Mais il y a cette volonté, par exemple, de se constituer une colonne vertébrale, sur l'ensemble du Golfe, à partir de deux stations de dessalement qui sont sur Oman, c'est-à-dire à l'extérieur de la mer d'Arabie, qui est une mer fermée, c'est-à-dire la moindre catastrophe industrielle en mer d'Arabie, et on l'a vu pendant la guerre du Golfe en 1991 avec Saddam, il y a un énorme impact sur les stations de dessalement. Mais ils veulent profiter de deux stations de dessalement en Oman, à l'extérieur de la mer d'Arabie, pour faire une infrastructure qui sera destinée, en cas d'urgence, à alimenter jusqu'à Bahreïn. Donc voilà, l'hydrodiplomatie peut être en marche à des fins d'urgence.
Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Tête. Faire de la question de l'eau une priorité politique au niveau des bassins de fleuves, on a compris que voilà la volonté politique avec une coopération entre États, c'est une chose. L'autre chose, peut-être plus compliquée, c'est finalement en interne, à l'intérieur de chaque pays, parce que cela exige déjà de hiérarchiser les priorités et on entre dans des conflits potentiels entre populations, entre provinces, entre régions, entre classes sociales.
Oui, mon sentiment est que dans la plupart des bassins dits hydroconflictuels, où l'eau est une source potentielle de tension, il y a souvent un état clé qui explique la montée, la translation de tensions nationales mal gérées à l'échelle interétatique. L'Égypte pour le bassin du Nil, l'Ouzbékistan pour la mer d'Aral, le Pakistan pour le bassin de l'Indus, par exemple. Et en fait, dans tous ces pays, on retrouve à peu près la même recette. C'est-à-dire, tout d'abord, là c'est commun également au monde, l'eau n'est plus un sujet isolé qu'on peut traiter de manière sectorielle. Il a des impacts sur la question alimentaire, sanitaire profondément. Le changement climatique est aussi un horizon très important, des questions énergétiques. Donc intervenir dans le secteur de l'eau veut dire modifier, qu'on le veuille ou non, ça aura des impacts dans tous les autres secteurs. Cela est ensuite compliqué également par notamment les usages agricoles de l'eau. Rappelons qu'il représente 70% des prélèvements, mais 90% de la consommation. Et lorsqu'il y a des tensions dans ces bassins que j'ai évoqués, c'est pas pour boire de l'eau au robinet, c'est bien pour l'eau agricole. Qui représente l'essentiel des usages. Et donc évidemment, le secteur agricole, qui a des dimensions sociales, économiques, multiples également, pèse sur la marge de manœuvre des décideurs politiques pour réformer leurs usages de l'eau. Et donc là, on est vraiment au cœur d'une question. Faut-il augmenter l'offre de manière systématique? Faut-il contrôler la demande? Très compliqué à faire en matière agricole parce que justement, le partage de l'eau reflète des équilibres de pouvoir. Alors, entre communautés, entre etc. Au Pakistan, il y a des très fortes tensions entre les provinces du Sindh et du Punjab qui pèsent sur les solutions ou la marge de manœuvre qui reste pour résoudre le problème. Et donc, cette incapacité à gouverner en interne rejaillit sur les relations internationales.
Alain Boinet, en guise de conclusion.
Alors, 195 États se sont fixés pour objectif l'accès universel à l'eau potable et assainissement. Je dois simplement dire que l'urbanisation va être un facteur majeur. En 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Et que ce que nous constatons sur la période, notamment 2000-2010, c'est que 27% de cette population n'a plus accès à l'eau potable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins d'urbains qui ont accès à l'eau potable, c'est-à-dire des populations qui rejoignent des grandes villes dans les pays pauvres. Donc ça va être un vrai sujet et une bombe à retardement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, il y a 60 millions de réfugiés déplacés dans le monde, que le commissaire aux réfugiés des Nations Unies a dit que la communauté internationale n'était plus capable de répondre à leurs besoins. On aura un sommet humanitaire mondial au mois de mai à Istanbul. Je rappelle qu'en 2015, on a eu les objectifs de développement durable, la COP21, le sommet de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes, le sommet d'Addis Abeba sur le financement du développement. Tout ça, c'est formidable. Ce qu'il faut, c'est vraiment connecter tout ça pour faire une dynamique où la responsabilité politique s'exerce et où les financements sont au rendez-vous pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et des ONG comme Solidarité Internationale et d'autres, je veux dire, veilleront à ce que ça se fasse parce que ça, c'est un combat pour les gens qui vivent dans les conditions les plus dures dans le monde, quoi.
On reparlera du sommet humanitaire mondial d'Istanbul, notamment avec vous, Alain Boinet. Je rappelle que vous êtes fondateur de Solidarité Internationale, une ONG spécialisée dans l'accès à l'eau. Merci aussi à Franck Galland, directeur général de S2, cabinet d'ingénierie conseil spécialisé en résilience urbaine et dans la préparation des opérateurs eau et énergie en réponse aux crises majeures, et Alexandre Tête, chargé de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je signale votre ouvrage à paraître prochainement, Franck Galland, Alexandre Tête, Les frontières invisibles de l'eau, géopolitique des eaux souterraines transfrontalières, apparaître donc aux éditions techniques peu offrisse. C'est la fin de Géopolitique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, émission cinéma et France Chatin. Véronique Durand et Nathalie Laporte, à samedi prochain.